RMC, entre les poteaux,
Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, bienvenue dans votre podcast quotidien sur la Coupe du Monde de rugby. On est jeudi, et jeudi, c'est la Namibie. Match du 15 de France contre l'adversaire le plus faible de la poule. Les Bleus doivent se rassurer, va-t-on vraiment pouvoir tirer des enseignements de ce match? Les dernières infos avec nos reporters qui suivent la France. Et puis on va vous présenter le rugby namibien, l'éternel loser un peu de la Coupe du Monde. Dans l'histoire, c'est 7 participations, 22 matchs, 0 victoire. Il y a plein d'histoires très sympas autour de la Namibie. Entre les poteaux, c'est parti. Avant de se plonger dans les entrailles du rugby namibien, on va retrouver Winnie Claret qui suit notre 15 de France. Salut Winnie.
Salut tout le monde.
Pour revenir un peu avec toi sur les dernières infos autour de nos Bleus, le programme ne change pas forcément. De match, c'est plutôt du classique. Avant ce soir, match à 21h, on le rappelle, on enregistre ce podcast dans l'après-midi. Il n'y a rien qui est vraiment bouleversant autour de l'actualité des Bleus. Ce qu'on se demande, Winnie, c'est est-ce qu'on va pouvoir vraiment tirer des enseignements de ce match vu la faiblesse de l'opposition avec les Namibiens?
Avant d'en tirer des enseignements, je pense qu'il faut cocher des cases, hein. C'est ce que nous ont annoncé les Bleus, se rassurer sur la base du jeu des Bleus, notamment en défense, en conquête, mais aussi fluidifier l'attaque. C'est aussi retrouver des repères, notamment avec cette charnière Antoine Dupont-Mathieu Jalibert, qui est de retour pour ce soir face à la Namibie. Les enseignements, ils vont être attirés dans le jeu. Bien sûr, la Namibie, sur le papier, c'est l'équipe la plus faible de cette poule A, mais il faut quand même que les Bleus puissent se rassurer. Ils nous ont pour l'instant montré qu'une belle mi-temps face à la Nouvelle-Zélande et un match très brouillon face à l'Uruguay. Ça, c'est Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque, qui l'a résumé après la rencontre de Lille face à l'Uruguay jeudi dernier. Donc les enseignements, on va évidemment, je pense, aborder du point de vue comptable, mais avant, c'est dans le jeu. C'est essayer de se rassurer, et c'est pour ça qu'on voit un retour massif des cadres pour la Namibie. C'était pas forcément attendu, tout du moins pas par nous qui suivons les Bleus maintenant depuis le début de l'été. Le staff nous assure que si, c'était prévu, impossible de pas faire jouer les cadres pendant un mois avant l'Italie. Bon, on a le droit de les croire, de pas les croire, mais voilà, c'est dans le jeu qu'il va falloir se rassurer, et après on va aborder le point de vue comptable évidemment. À noter quand même 12 changements chez les Bleus entre le 15 de départ face à l'Uruguay jeudi dernier à Lille et le 15 de départ au Vélodrome ce soir à Marseille.
De toute manière, on débriefera bien évidemment ce match demain en longueur dans Entre les poteaux. Merci Winnie. On vous retrouve avec tous les reporters qui suivent l'équipe de France tout au long de cette Coupe du Monde. On va accueillir notre bible à nous, Pierre Amiche, qui est là pour nous parler du rugby namibien. Salut Pierrot.
Salut Nico, la Bible modestement, brochure un peu dense, mais la Bible, on est loin quand même.
Mais c'est important de te valoriser. C'est important de te valoriser avant ce bel épisode.
Ça crédibilise le podcast.
Totalement. On voulait parler avec toi Pierrot du rugby namibien, parce que c'est vrai que ce rugby namibien, il est toujours présent lors de la Coupe du Monde. Je le disais dans le sommaire, 7e participation, ils ont disputé 22 matchs, ils n'en ont pas gagné un. On a l'impression qu'il y a cette image de loser à chaque fois, et la Namibie, c'est la plus grosse. La plus lourde défaite de l'histoire de la Coupe du Monde en 2003, 142-0 contre l'Australie. Présente-nous un peu le système de ce rugby namibien. Déjà, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a pas beaucoup de joueurs de rugby, on imagine. Présente-nous un peu tout ça.
Déjà, c'est un pays très jeune qui est indépendant depuis 1990. C'était à la base une province sud-africaine. D'ailleurs, ils ont gardé cet aspect dans leur rugby. C'est un rugby très frontal, très physique, qui s'inspire énormément de ce que peuvent faire les Springboks. Je te disais, c'est un pays jeune et c'est aussi un pays qui se tourne vers les jeunes. Le rugby, c'est plutôt un sport universitaire, en fait. Donc, la plupart des joueurs qui passent par la sélection nationale, les Wallwichas, ils sont issus de ces filières universitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un niveau qui n'est pas professionnel. Il y a 8 équipes qui composent le championnat namibien, mais globalement, ils ont essayé de monter une franchise il y a quelques années, entre 1999 et 2015, et ça n'a pas été une grande, grande réussite. Les meilleurs joueurs namibiens, en fait, se sont exportés. Et cette franchise, elle n'était évidemment pas au niveau pour jouer le Super Rugby, mais elle a joué la Currie Cup nationale, la troisième division. Il y a la Super Rugby, la Currie Cup, et eux, cette franchise-là a évolué au troisième étage, et ça a été assez compliqué pour eux parce qu'ils n'ont quasiment pas gagné. Et puis, ce qu'il faut dire en termes culturels, c'est que... Vas-y, excuse-moi, Nicolas.
Non, je te disais, ils ont une culture très proche des Sud-Africains, on imagine, avec ce rugby porté vers l'avant, vers totalement, le combat.
Bah, totalement. D'ailleurs, le joueur emblématique de la génération des années 2000, je ne sais pas si tu te rappelles, de Jack Burger, qui était ce troisième ligne des Saracens qui plaquait sans relâche. Et c'est avec lui, d'ailleurs, en tant que capitaine, qu'ils ont frôlé leur première victoire en Coupe du Monde. Ils ont perdu que d'un petit point, 17-16 face à la Géorgie. C'était le point d'orgue de la génération Burger. D'ailleurs, cette année-là, ils étaient déjà dans la poule des Blacks, mais ils n'avaient pas pris une énorme rouste. Ils avaient résisté à chaque match et c'était une équipe pénible à jouer. Aujourd'hui, ben, on le voit, hein, c'est une génération qui est à la fois très vieillissante avec des Van Jaarsveld ou des Van Liel et ou très jeune, comme par exemple Gershwin Mouton, mais on va revenir un peu sur les qualités de cette équipe, évidemment, qu'on va affronter.
Justement, parle-nous un peu des joueurs qui composent cet effectif de la Namibie. On peut dire qu'il y a trois joueurs qui se détachent un petit peu du reste de l'effectif. Il y a les vieux grognards aussi qui sont un peu connus du rugby français parce qu'ils ont joué dans des clubs français ou ils sont encore en France actuellement. Sinon, c'est difficile de dégager des individualités de ce groupe.
Bah c'est sûr, on va en prendre un par ligne. Donc en première ligne, c'est Thorsten Van Jaarsveld, qu'on a bien connu en top 14 et en pro D2, qui n'est pas titulaire sur ce match. En deuxième ligne, Wanivi, le grand deuxième ligne massif de Montauban, qui lui non plus ne jouera pas, mais ça s'explique. Hein. C'est parce que cette équipe namibienne a un objectif, c'est de remporter un match, et donc ils ont fait tourner en vue du match face à l'Uruguay, le seul qui est à leur portée. Et puis il y a trois joueurs un peu particuliers. Le premier, c'est Tian Swanepoel, qu'on ne verra pas jouer face à l'équipe de France, mais qui est vraiment l'archétype du demi d'ouverture sud-africain, on va dire d'inspiration en tout cas. C'est le plus gros buteur du monde, il tape de 70 mètres, il a des cuisses monstrueuses et c'est un plutôt bon animateur. On va retrouver Johan Dijssel, qu'on connaît très bien en France, qui est le capitaine de cette équipe. Avec son duel face à Jonathan Danty, ça risque de faire des étincelles. C'est un centre très massif, c'est quasiment un quatrième, troisième ligne. Et puis il y a un joueur extrêmement créatif que moi j'apprécie beaucoup, qui a déjà marqué dans cette Coupe du Monde, qui s'appelle Gershwin Mouton, qui est un petit prodige. Voilà, c'est une sorte de Joe Aplon, de Chelsea Colby. Il a beaucoup d'appui, il est explosif. Et puis il a un nom, on a envie de l'aimer, quoi. Gershwin Mouton, on a envie
c'est
de l'aimer.
C'est vrai, c'est sympa. C'est français un peu. Et nous, ça nous parle, ça.
Ouais, c'est ça.
Mouton, ça c'est chouette. Pierrot, il faut quand même que tu nous expliques un peu aussi le rapport qu'ont les Namibiens avec la défaite. Parce que qui dit Coupe du Monde et Namibie, bah, c'est forcément associé à de gros cartons contre eux. C'est peut-être un exploit pour eux aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde, hein, on imagine. Mais c'est vrai que quand ils sont là, on se demande un peu quelles ambitions ils ont avant de débuter une Coupe du Monde.
Bah, en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'équipe de Namibie, elle est composée pour partie, voire pour majorité, de joueurs qui évoluent à un niveau amateur. C'est-à-dire que sans faire offense à ces joueurs-là, il y en a certains qui évoluent au niveau où moi j'ai évolué en Fédéral 2. Donc c'est complètement fou de se dire que ces joueurs-là disputent une Coupe du Monde. Et puis, dans la zone Afrique, c'est un peu difficile de se qualifier parce qu'il y a une grosse densité. Il n'y a pas d'équipe monstrueuse, mais il a fallu venir à bout de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Kenya, du Botswana, du Mozambique. C'est quand même des équipes où on joue au rugby, du Sénégal. Et donc, c'est un vrai parcours du combattant. La Namibie est la meilleure équipe africaine après l'Afrique du Sud. Mais évidemment, ce continent-là est encore en développement. Et je pense que l'objectif namibien, c'est d'être présent à la Coupe du Monde. Parce que c'est comme ça que l'équipe grandit, que l'équipe progresse. On fait gagner de l'expérience à des joueurs et puis de la visibilité. Il y a des tas d'histoires de joueurs, pas forcément namibiens, mais par exemple uruguayens ou chiliens, qui, grâce à cette Coupe du Monde, vont pouvoir aller vendre leurs services. Par exemple, au centre, on a un joueur quand même qui va porter le numéro 13, qui est présent sur un site très connu qui s'appelle... Rugby Agent, et en fait les joueurs proposent leur service, et c'est le cas par exemple pour Banco qui est au centre, qui a proposé en gros je suis ouvert à toute offre, toute aventure en Europe. C'est des joueurs qui sont là à la fois pour être présents à la Coupe du Monde et disputer des matchs et du mieux qu'ils peuvent, mais aussi peut-être en faire leur métier parce que ce sont des joueurs amateurs. Donc on a un regard un peu cruel parfois si on prend juste les chiffres, mais la réalité de ces équipes-là, elle est bien plus complexe. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans une Coupe du Monde de rugby, c'est que ils vont traverser la moitié de la planète pour 15 semaines, parce qu'il y a la préparation qui rentre dedans, pour avec des copains essayer de défier les meilleures équipes du monde, à savoir la France et la Nouvelle-Zélande. Je veux dire, ces gars-là, ils auront des tas d'histoires à raconter. idées que moi j'aurais pas, quoi. Donc
ça c'est clair.
Même s'ils perdent, il faut quand même respecter ces gars.
Il y a des destins de dingue. Je pense à PJ Van Liel qui joue en France, qui a joué à Bayonne, qui est maintenant à Cap-Breton, Osgore, je crois, qui a bientôt 40 ans, ouais. Qui est dentiste. Quand il revient en Namibie, lui, pour la sélection, pour disputer des matchs internationaux, il en profite parce qu'il a un cabinet là-bas pour aller donner 2-3 consultations. Et à côté de ça, il s'est forgé une carrière professionnelle. Donc voilà, le rugby namibien, c'est tout ça. C'est
et
plein de semi-professionnels.
Il pensait même pas être à la Coupe du Monde.
Ouais,
voilà, il pensait même pas être à la Coupe du Monde. On a fait appel au vieux grognard Van Liel. Parce qu'il y a l'expérience, parce qu'il y a le charisme, parce qu'il connaît la France et qu'il parle un peu français et que mine de rien dans un groupe ça aide. Et puis parce que tout simplement, ils n'ont pas non plus 50 solutions à différents postes. Donc voilà, moi j'ai une tendresse particulière, pas nécessairement pour la Namibie, mais pour toutes ces formations, Chili, Namibie, Uruguay, Portugal, même la Géorgie, la Roumanie, à qui on promet souvent des belles roustes et qui, à chaque fois, arrivent à nous sortir des joueurs incroyables et des matchs courageux.
Ouais, voilà. Qui se battent. Ce sont des nations vaillantes, ça c'est sûr. De toute manière, on essaiera, hein, tout au long de cette Coupe du Monde, on aura du temps, puisque l'équipe de France ne joue pas pendant 15 jours, de vous présenter un peu ces petites nations, je mets des guillemets bien évidemment, du rugby, mais qui essayent de rivaliser désormais avec des pays du tiers 1. Rapidement, Pierrot, pour terminer, mais en plus, la Namibie, tu le disais, influence sud-africaine, sport universitaire, on imagine beaucoup du coup de blancs qui jouent là-bas, mais ils essayent d'ouvrir un peu aussi le rugby aux populations noires, hein, ça c'est important.
C'est clair que depuis 1990, c'est l'indépendance, il y a eu un mouvement qui a tout simplement séparatiste vis-à-vis de l'apartheid sud-africaine. Ça a mis du temps, hein. Je vais pas te mentir, Nicolas, il y a eu une majorité de joueurs blancs depuis l'origine, depuis 90. Mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Déjà, ils ont changé de nom. À l'origine, leur surnom, parce que toutes les équipes ont des surnoms, rappelait malheureusement une spécialité culinaire, mais qui était très marquée par les Afrikaners et les Boers. Et l'équipe de Namibie l'a rejeté pour prendre les Welwitschias, qui est une plante locale qui ne pousse qu'à l'ouest du pays. Et puis, il y a aussi des illustrations et des histoires complètement folles, comme Prince Gaotseb. Je suis incapable de vous prononcer son nom correctement.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Son nom de famille commence par un point d'exclamation qui est le symbole du cliquetis ethnique. En fait, c'est un bruit spécifique qui n'est présent qu'en Afrique subsaharienne et sur la côte sud-ouest. Et ce joueur-là, eh ben, il est noir déjà, il n'a pas 50 dans l'équipe de Namibie. Et puis surtout, il symbolise c'est carrément une ethnie. Donc voilà, il y a eu des gros efforts de fait, notamment récemment. Et je pense que comme l'Afrique du Sud, ils vont avoir à cœur et comme objectif d'avoir de plus en plus de joueurs de couleur. Aujourd'hui, l'un des leaders, Wanivi, est noir. Mais c'est vrai que la plupart des joueurs majeurs de cette formation africaine, et c'est toujours curieux, sont blancs. Espérons que les choses s'inversent un peu et que la diversité soit reconnue au moins à sa juste valeur dans ce pays-là.
Pierrot, merci beaucoup. On a bien présenté ce rugby namibien. Si vous aimez un petit peu ce format d'épisode d'Entre les poteaux, quand on vous présente des nations, des sélections étrangères, franchement, vous nous le signalez. Petit commentaire sur les réseaux sociaux, des notes, vous n'hésitez pas, hein, à interagir avec nous. C'est super important pour nous. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes de téléchargement, sur rmcsport.fr. Entre les poteaux pendant la Coupe du Monde, c'est un épisode par jour. Vous retrouvez demain notre Raphaël Ibanez à nous, Christophe Cessieux, pour débriefer le match des Bleus contre la Namibie. Ah, ça lui va bien, Raphaël Ibanez. Hein. Allez, à demain. Bye bye.
Ciao. Ouais, c'est pas mal. Ouais.